Voilà, bonsoir, bien-aimés. Je salue ceux que je connais depuis longue date, et puis vous, très heureux de faire votre connaissance. Et je disais tout à l'heure, c'est particulier, ça ramène beaucoup de souvenirs à la surface. Alors, on va ouvrir la parole dans un instant. On ne se connaissait pas avec nos collègues, maintenant on s'apprécie énormément, hein. Un sudiste avec un frère qui vient de l'Est, qui était à Besançon, quand on a fait connaissance. Et méfiez-vous des gens de l'Est, parce qu'ils ont un petit dicton, ils disent « le bonheur, c'est l'Est ». Faut pas les croire. Elle est facile, mais c'est eux qui la font. Oui, mais c'est eux, c'est pour ça. Et un autre qui était à Saint-Brieuc, qu'a-t-on de commun avec des Bretons ? Eh bien, le point commun, il est là ce soir. Pour rendre témoignage à la fidélité de Dieu, nous sommes tous les témoins d'un petit bout d'histoire de l'Église. Et je voudrais, sans plus tarder, faire la lecture de Matthieu 16, 18, s'il vous plaît. Ce sera notre texte de référence ce soir. La première fois où dans la Bible et dans la bouche de notre Seigneur, on entend parler de quelque chose qui est complètement nouveau, l'Église. Pierre vient de dire au verset 16, par révélation, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répond, « Je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, cette déclaration-là, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et c'est comme cela qu'apparaît dans l'histoire l'Église. Avant, on connaissait le temple, dans l'histoire. Et puis l'Église est arrivée, mais l'Église, quand Jésus en parle, elle est où ? Comment la repérer ? Elle est faite de quoi ? Alors aujourd'hui, quand on parle d'Église, on parle souvent du bâtiment. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est le lieu de culte. L'Église, c'est nous. Voilà. L'Église, elle est jeune, c'est nous. Elle est moins jeune, c'est vous. Elle est en forme, c'est nous. Elle boite un peu. Voilà. Donc comme ça, au moins, tout le monde se rappelle que l'Église, c'est pas le bâtiment. Par contre, ça l'est devenu dans l'abus du langage. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit peu un saut dans l'histoire et que l'on remonte loin dans la revue de l'histoire des religions. On nous explique ceci, alors je vous le lis. Les lieux de culte chrétiens dans l'Antiquité tardive. Alors durant la christianisation de l'Empire romain, les lieux de culte se sont installés dans des maisons de notables, ainsi que dans les basiliques civiles des forums. Là on est chez les Romains. Car les vastes basiliques pouvaient accueillir la foule de la cité et rassembler les fidèles. Rapidement, le manque d'espace pour les besoins du nouveau culte a entraîné la construction de nouveaux édifices sur le modèle des anciennes basiliques civiles, dont le plan est adapté et à la liturgie chrétienne, ce qui aboutit au plan basilical, qui deviendra le plan d'église le plus répandu tout au long de l'histoire de l'architecture chrétienne, et on va le voir dans un instant. Donc, comme on dit aujourd'hui, une église à plan basilical, c'est une basilique, est un type d'église dont le plan s'inspire et dérive des basiliques civiles de la Rome antique. Autrement dit, les premiers chrétiens pouvaient parfois se réunir dans les temples, dans les synagogues, mais ça n'a pas duré, ils ont été chassés. Alors ils se sont réunis dans les maisons. On sait que dans l'histoire aussi, ils se sont réunis à Rome dans les catacombes. Ils se sont réunis dans des endroits où ils pouvaient se rassembler. Et l'Empire romain chute. Par contre, ils avaient très très bien construit les choses. Et je vous fais référence à Arles. Les pierres qu'ils ont édifiées durent, tiennent. Et ils avaient construit des basiliques. Et la basilique, c'était un lieu public où, entre autres, siégeait le tribunal. Alors, on passe à la diapo suivante. Voilà. Et vous avez ici, je me décale un peu, vous avez ici le public et là-bas, dans l'art de cercle, le tribunal, avec les avocats, les accusés, quand c'est le tribunal qui s'installe dans la basilique. Parce qu'en fait, c'est un lieu multifonction, la basilique. Et puis, plus personne ne l'utilise. Les chrétiens l'ont utilisé. Et vous y retrouvez tout le schéma des cathédrales jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'histoire. L'histoire, ce n'est pas un bâtiment. C'était un lieu public qui a été adapté et utilisé pour devenir une église. Et aujourd'hui, quand vous parlez d'une cathédrale, plus personne ne pense que c'était un tribunal à l'époque, voire d'autres choses. Alors on passe à la diapo suivante. Les forums. Vous voyez que les forums ressemblent à des couvents. Parce qu'en fait, se tenaient sous les arches, eh bien tous les marchands, c'était le marché public en fait, hein. Tous les artisans étaient là, la foule était au milieu, il y avait un lieu de réception, et quand tout ça n'était plus utilisé, mais que c'était très très solide, eh bien les chrétiens se sont dit, eh bien, nous on va se l'approprier et on va l'utiliser. Et puis comme c'était très bien pensé, parce que les Romains quand même réfléchissaient bien et puis travaillaient bien, eh bien, dans l'histoire, ça s'est reproduit moyennant des adaptations, des modifications dans les formes, mais pas dans le fond. Dans le fond, c'est toujours la même histoire. Et voilà l'église dans le bâtiment originel. Maintenant, on vient à Arles. Parce que quand j'étais ici, il y a des chrétiens qui m'ont dit « Mais ce serait bien qu'on se soucie un peu de l'histoire de l'église dans la ville de Arles. Alors restez assis, ça vaut mieux. » Nous sommes en 353, a lieu le concile d'Arles. Donc Arles a toujours été une capitale. Hein. Et à ce moment-là, donc je ne sais pas si je vais vous le lire, hein. Je vais le dire quand même en diagonale, il y avait une fausse doctrine que l'on retrouve aujourd'hui dans la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est celle qui consiste à nier la divinité de Jésus-Christ. Et celui qui en est à l'origine, il s'appelait Arius. Et cette fausse doctrine, ça s'est appelé l'arianisme. Par contre, en ce temps-là, c'était le courant de pensée théologique le plus répandu au IVe siècle et qui devenait le point central concernant ses positions au sujet de Dieu le Père et son Fils Jésus. La pensée de l'arianisme, donc, affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité, donc on ne le prie pas. Et c'est le concile d'Arles qui a installé cette doctrine comme la doctrine officielle de l'histoire de l'Église. Il y a des choses, on ne voudrait pas que ça se soit passé, mais ça s'est passé. Pendant des décennies, la doctrine officielle de l'Église niait la divinité de Jésus-Christ. Et ça s'est validé au concile d'Arles en 353, qui faisait suite au concile de Nicée où l'empereur Constantin avait favorisé la doctrine saine de l'Église, celle que nous croyons aujourd'hui. Mais de 325 à 361, soutenu par l'empereur qui a succédé à Constantin, eh bien les partisans de cette doctrine ont pris le dessus. Et c'est en 353, présidé par l'évêque d'Arles, qui s'appelait Saturnin, je ne sais pas si vous vous en rappelez, que l'empereur a arbitré les séances et a réclamé la condamnation de la doctrine saine pour installer celle-ci. Et de 353 jusqu'à 361, Concile de Paris, ça a été la doctrine officielle de l'histoire de l'Église. Et puis en 361, ça a été balayé. Et depuis, la doctrine officielle de l'histoire de l'Église concernant Jésus, c'est qu'il est l'égal du Père. Il est Dieu, le Fils. Vous voyez qu'il y a eu des batailles à Arles. Ceci peut parfois expliquer aussi cela. On est dans un contexte où on porte le poids de l'histoire. Et il y a eu des batailles à Arles. C'est pas fini. Chaque Église a sa propre histoire. Alors, en 401... Il y avait un prêtre à Arles, il s'appelait Hilaire d'Arles. Il est l'initiateur certainement de la cathédrale d'Arles appelée Saint-Étienne, qui est devenue Saint-Trophime. Et Hilaire connaît des débuts difficiles. Écoutez bien. Il a du caractère, donc c'est un Arlésien. Et il interpelle du haut de la chair les fidèles pour les apostropher par leur nom. Alors moi, je ne suis pas encore arrivé là. Hein. Mais lui, il les interpelle par leur nom et il dit ceci. Vous, l'épicière, vous faussez vos balances. C'est l'histoire, hein. Je n'invente rien. Vous, le juge, votre jugement dépend des poulardes qu'on vous donne. Alors au bout d'un moment, ça plaît moins. Alors il change sa façon de parler et il s'adapte à son auditoire quand il s'aperçoit que les fidèles se font de plus en plus rares et qu'ainsi la parole de Dieu n'est plus entendue. Mais ça veut dire qu'il y a eu des prédicateurs à Arles qui disaient ce qu'il fallait dire. Et c'est pas d'hier. Donc on a un héritage à continuer de perpétuer. Il a un art oratoire et il sait s'adresser aussi bien aux grands de ce monde qu'aux gens du peuple. Et il prêche la vérité évangélique sans déguisement, sans craindre les puissants, n'hésitant pas à les reprendre directement en public. Mais il montre néanmoins une grande tendresse à l'égard des pécheurs. Son principe est de tout rapporter à Dieu et d'examiner en tout temps l'état de son âme comme si elle était prête à être examinée par le souverain juge. Moi, je dis merci pour ceux qui nous ont précédés. Et puis, on va terminer avec les croisades et les cathares. Devant le danger que représente le dogme cathare, c'est-à-dire il se prenait pour les purs, les cathares et les albigeois s'opposaient à l'Église catholique romaine. Et il se prenait pour des purs qui voulaient mettre en avant certaines vérités évangéliques et ne pas suivre le dogme de l'Église catholique romaine. Le pape s'y oppose, le roi de France s'y oppose. Ils sont soutenus par le comte de Toulouse, c'est notre histoire, qui avait sa demeure de vacances à Saint-Gilles. Et pour faire la paix, c'est un peu comme aujourd'hui, quand on l'entend dans l'actualité, le pape a envoyé un légat, une délégation, Pierre de Castelnau, qui vient à Saint-Gilles rencontrer le comte de Toulouse pour calmer le jeu, faire la paix. Mais en repartant le lendemain, le légat du pape, Auguet de Saint-Gilles-du-Rhône, en juillet 1208, il est assassiné. Et du coup, en 1209, le pape lance la première guerre sainte en Europe, christianisée, qu'on appelle la croisade des Albigeois, et l'armée croisée, composée d'hommes de l'Europe du Nord, essentiellement, et réunie à Lyon, passe le Rhône, s'avance via Montpellier, avec comme seul objectif les terres du vicomte d'Albi, Béziers, Carcassonne. L'histoire est surprenante. On finit à Carcassonne. La ville de Béziers tente de résister, mais sa rapide prise est l'occasion d'un illustre massacre où on rapporte à un des généraux qui venait pour se battre contre les cathares cette fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Et les croisés mettent ensuite le siège devant Carcassonne qui sera au bout de 15 jours. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le nouveau pasteur vient de Carcassonne. Et après le refus des plus notables seigneurs de la croisade, Simon de Montfort, baron peu connu d'Île-de-France, c'est encore un coup des Parisiens, accepte de devenir chef de la croisade et nouveau vicomte de Carcassonne. Voilà un petit peu l'histoire qui nous touche les uns et les autres de loin ou de près, et qui fait bien que cela doit nous interpeller. Maintenant, je voudrais arriver à notre histoire plus contemporaine. Celle qui... Moi, je suis arrivé en 2006, donc vous voyez qu'on pouvait remonter beaucoup plus loin, mais c'était pas avec nous, c'était avec d'autres. Nous, on est là avec vous depuis quelques décennies et nous sommes arrivés en 2006. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de lieu de culte. Et on se retrouvait à la chapelle mortuaire de l'hôpital. Quand on rentrait, voilà la partie de droite, ensuite la partie de gauche. Alors, c'est pas très éclairé, mais en fait, c'est une chapelle mortuaire. Alors, vous verrez sur les deux autres photos, c'est pas mieux. Vu du pupitre, voilà l'auditoire. Et au fond, les portes. Ces portes, je les ai encore. Ces portes, je les ai encore dans la tête. Parce que le dimanche matin, à 11h, c'était l'horaire qui était prévu pour que les familles des défunts décédés à l'hôpital ou des accidentés de la route, pouvaient venir derrière les portes du pupitre, se recueillir, et nous, de l'autre côté, on chantait des cantiques. Et parfois, ils se trompaient, pensant que c'était une cérémonie funèbre, et ils ouvraient. Quand ce n'était pas les fourgons des pompiers qui venaient en marche arrière, ils ouvraient, puis ils sortaient un corps qui passait par le couloir qui était juste à côté. Ah, c'est ça l'histoire, hein. Je vous avoue que on a prié le Seigneur. Et puis, un jour, le directeur me convoque et me dit « Vous ne pouvez plus rester là ». Lui, il a donné deux raisons. Les deux raisons, vous allez les comprendre d'une certaine manière, parce que je les ai un peu comprises comme ça, mais il y a une autre façon de les comprendre. Il me dit « Je commence à avoir des plaintes de personnes qui se recueillent et qui entendent du bruit de l'autre côté, c'est difficile pour elles ». Et du personnel, parce que vous êtes nombreux et vous restez longtemps à discuter. Et sur ces quatre points, il y en a deux qui sont non discutables. Des gens qui n'arrivent pas à se recueillir et d'autres qui disent « mais c'est pas fait pour ça ». Et puis il y en a deux autres, moi je me disais « ben Seigneur, pour moi c'est positif, on commence à être nombreux ». Et les gens restent et ils commencent à discuter. Mais c'est pas le bon endroit. Voilà. Donc on passe à l'endroit suivant. C'est une autre église de Arles qui nous a prêté les locaux. Pendant 7 ans, le culte était le dimanche à 17h, même pendant les mois de juillet et d'août. Je prends à témoin les Arlésiens qui sont là. Ils allaient se baigner le matin, début d'après-midi. À 17h, ils étaient là. Je m'étais dit, ça marchera jamais. Ça a marché pendant 7 ans. Béni soit Dieu. Hein. Comme quoi, on peut gérer la journée du dimanche. Et certains me disaient, mais pasteur, pour nous c'est excellent, le dimanche matin on peut se lever un peu moins vite, on peut se retrouver en famille, on a le temps de manger, etc. Et on vient au culte à 17h. Et le pasteur que j'étais se disait, et quand on va repasser en fonctionnement normal, comment ça va fonctionner? La preuve en est, Dieu a été bon. Voilà, on passe à une autre diapo, service de baptême bientôt. Et dans cette église, vous comprenez qu'on ne pouvait pas être en même temps que les autres chrétiens, puisque nous, déjà, c'était, comme on dit, full. On continue. Voilà, vous reconnaissez certains. Hein. Oui, oui. Je laisse les photos. Hein. On continue. Et voilà. On s'occupait des enfants quand on pouvait. Voilà, les enfants ont grandi. Et le personnel aussi. On continue. Et voilà un service de baptême. Alors lui, vous ne le connaissez pas. Enfin, tout le monde ne le connaît pas. Monsieur Guérini, comment s'appelle-t-il? Romain. Voilà. On continue. Et voilà, on avait des jeunes et un petit groupe. On continue. Et voilà du fond, notre estrade à nous. Voilà, où les musiciens étaient assis sur le baptistère. Et puis on s'occupait des enfants, de temps en temps on enlevait toutes les chaises, et on s'occupait des enfants qui eux aussi ont grandi. Et puis est arrivé ce lieu. On prend un instant sur cette photo. Ce lieu a une histoire particulière. En ce qui me concerne, parce que pendant des années, tout le monde a cherché. Je crois que personne ne connaît mieux la région de Arles que les chrétiens de l'Assemblée de Dieu. On a prospecté partout. On était connus au service de l'urbanisme plus que tous les investisseurs. Parce que dès qu'on avait quelque chose qui pouvait convenir, on allait les voir en leur disant « c'est possible, oui, non, etc. Quelle est la réglementation ?» Ça fait que le jour où on est arrivé avec le bon endroit, ils ont dit « ah, ben ça y est, vous avez enfin trouvé. Il n'y a plus qu'à monter le dossier, on est OK. » Et donc on était ici avec le promoteur sur cette parcelle, et le vent du nord, il vient de là. Je vous explique pourquoi. C'est que le promoteur, on était tous les deux, il était comme ça. Donc je me mets face à vous, ça veut dire que le vent passait comme ça. Et le plan faisait ce bruit-là. Et lui, il me disait, écoutez, cette parcelle-là, avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, alors c'est là que j'ai su que c'était le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il me dit, pour vous, c'est le meilleur endroit, vous pouvez même faire un lieu de pause pour les pèlerins. Oui, c'est ça l'histoire. Et il me disait, c'est l'appel de Dieu. Alors, je l'ai aidé à tenir la feuille, je lui ai dit, vous pouvez répéter. Alors, il a été gêné. Il me dit, ben oui, moi je suis catholique non pratiquant, vous voulez faire un lieu de prière, c'est tellement bien placé, c'est l'appel de Dieu pour vous cet endroit. Et dans ma tête, ça a fait ADD. Appel de Dieu. Prenez-le comme vous le prenez, mais moi j'attendais quelque chose et c'était ça. Et je me suis dit, c'est là. Et après, il faut que tout le monde le valide, et puis tout le monde l'a validé, on en est arrivé là. Donc je termine avec l'introduction. Je l'ai toujours gardée. Normalement, c'était un peu prévu pour être sur la porte du bureau pastoral. Franchement, à Montpellier, on va faire le même bureau. Mais on ne l'a jamais mis. La trésorière m'avait offert, ici, le possible est déjà fait. L'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir 48 heures de délai. C'est ça l'histoire. Le possible est déjà fait. Dieu est le Dieu du possible. L'impossible est en cours. Il est le Dieu de l'impossible. Et pour les miracles, on est au bon endroit. Se tient dans la maison de Dieu. Et on aurait tant de choses à rajouter, alors je ne veux pas être trop long. Matthieu, chapitre 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, cette déclaration, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le mal est fondamentalement la séparation d'avec Dieu. Et on peut le décliner à tous les niveaux. Le mal, c'est la séparation. Un couple qui se sépare, ça fait mal. Une famille qui se sépare, ça fait mal. Des amis qui se séparent, des voisins, des collègues de travail qui se séparent. Fondamentalement, le mal, c'est la séparation avec toutes les conséquences qui vont avec. Et Dieu, lui, il vient et il appelle à reconstruire. Et puis, il donne les moyens pour le faire. C'est pas un appel, un vœu pieux. Il paie le prix pour ce qui le concerne, de la construction. Alors on continue. Arrive ce terrain. Et puis, on ne va pas aller trop vite. Ce terrain, au début, on a eu juste de quoi l'acheter. Alors on l'a acheté. On a été quasiment les deuxièmes à acheter sur toute la parcelle qui va jusqu'au bout. Les derniers à construire. Pas sous. Pour ça que ça a duré 7 ans, le temps que par la grâce de Dieu, les choses arrivent. Et puis on a réussi à faire les fondations. Et puis on a continué. Voilà. Vous en reconnaissez encore quelques-uns ? Eh oui. On continue. On avait des bétonnières professionnelles. C'est-à-dire, on était plusieurs à avoir mené nos bétonnières et elles sont reparties à la poubelle. Elles ont explosé en route. On les a tuées. les bétonnières. Mais on y mettait du cœur. Hein. Vous avez vu le tas de sable comparé aux bétonnières? Vous allez voir dans la prochaine photo. Voilà. Alors pourquoi la casquette? Parce que la crue de référence ici entre le Rhône et le Petit Rhône, dans le sens, de 1800, je ne me rappelle plus, c'est 4,50 m de hauteur d'eau. Donc ils nous ont dit qu'il faut protéger le personnel, c'est-à-dire moi, maintenant c'est toi, il faut protéger le personnel en cas d'inondation. Il faut un plancher refuge à 4,50 m avec un mètre de vide sanitaire. Je dis ok, ben on va le faire, on n'a pas le choix. Donc tout le monde nous dit, vous avez fait un plongeoir? Je dis non, on n'a pas fait un plongeoir, c'est la casquette. Après on s'est dit, mais la casquette, si on l'entourait, que ça fasse au moins une terrasse, quoi. Puisque là-haut, du coup, on peut faire un logement. On continue. Et voilà le week-end, comment on travaillait. La semaine, le voisin, l'entreprise à côté, nous aidait. Il venait avec le tractopelle, il nous disait, vous nous sifflez, on vient, on vous monte le béton, vous nous sifflez, on vient, on vous redescend le godet. Mais le week-end, on faisait, vous allez voir comment on faisait. Dans un seau, et ça, on ne l'a pas fait valider par les organismes de certification. Avec un échafaudage qui était quand même digne de ce nom, arrimé au sol parce qu'il ne fallait pas que ça bascule, on montait le ciment là-haut. Et puis en haut, il y en a d'autres qui réceptionnaient. Personne n'est tombé. Hier, je regardais toutes les photos, je me suis dit qu'il fallait quand même en tenir un grain. Mais je n'étais pas le seul à être grainé, mais il fallait quand même en tenir un grain. Et on continue. Et là, maintenant, on est à l'intérieur. Peut-être quelques-uns se souviendront. Les frères Ducasse, professeurs de violon, professeurs de piano, avec Hélène, en voix off, eux jouaient et elles lisaient ce qu'on appelle Via Dolorosa, la montée de Jésus au calvaire. Écoutez, c'était bouleversant. Il y a des souvenirs ici, hein, de choses qui ont été faites pour la gloire de Dieu. On continue. Après, il y a eu les enfants, on a changé de local. On continue. Et là, je m'arrête un instant. D'ici, nous nous sommes partis en Corse, 5 ans. Mon épouse a retrouvé de la famille au village, donc maintenant, je suis Corse. Quand on a de la famille au village, on est Corse. Et avec ce qui se passe aux informations de ce petit village du sud, où une dame qui n'est pas corse a porté plainte pour faire enlever la croix qui est à l'entrée du village, les chrétiens me disent, pasteur, on n'en revient pas, on priait pour qu'il se passe quelque chose en Corse. Toute la Corse se lève pour dire à cette croix, on va s'y attacher, on va s'enchaîner, jamais ils n'enlèveront la croix du village. Ils disent, la Corse, elle est chrétienne. Et moi, j'ai envie de leur dire, soufflez fort. Que ça... Mais on ne fait pas de politique. On continue, mais c'est ça l'histoire de l'Église. On arrive au bout, alors on s'arrête là. C'est pour dire que nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe autour de nous et dans notre monde. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc Dieu appelle à revenir à lui. Et c'est ça l'appel de Dieu, rien d'autre. Pour qu'il y ait un rapprochement, on peut l'enlever, hein, et une réconciliation. Parce que nous sommes séparés de lui. Pour qu'il y ait une nouvelle nature et de nouvelles relations. Avec Dieu d'abord, et entre nous ensuite. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Il faut d'abord être réconcilié avec Dieu pour que les choses changent dans notre vie de tous les jours ici-bas. Et tout ce qui a été détruit, eh bien Dieu le reconstruit. Et Dieu est un Dieu d'unité. Nous, on a appris à séparer, à diviser. Dieu, lui, il ne fait que construire. Il ne fait que unir. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont tellement unis qu'on a du mal à le comprendre. Je bâtirai mon Église. Et sur ce roc, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur ce roc-là que je vais bâtir mon Église. Ça veut dire que tout ce qui va et qui doit changer dans nos vies ne pourra le faire qu'en nous appuyant sur le Seigneur Jésus et personne d'autre. Sur son œuvre et rien d'autre. Ça nous oblige à beaucoup d'humilité. On se rappelle ce passage de l'évangile de Luc qui introduit la parabole des talents. On connaît plus ou moins tous les chrétiens la parabole des talents. Mais la petite phrase du début, un homme de haute naissance s'en est allé dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Je me dis, c'est beau, en une phrase, il y a tout le message de l'évangile. Un homme de haute naissance, c'est lui. Il a quitté le ciel de gloire, il est venu sur la terre des hommes. S'en est allé dans un pays lointain. Il est allé sur la croix. Il est allé dans la mort. Pour se faire investir de l'autorité royale. Et quand on le lit dans le grec, se faire investir de l'autorité royale, en fait, littéralement, on pourrait le traduire plus juste par « il est allé prendre de ses mains l'autorité ». Nous avons le scénario hollywoodien, se faire investir de l'autorité royale, bon, vous mettez le tapis rouge, toute l'assistance, je vais venir, je vais m'agenouiller, vous allez me couronner. Ça, c'est les films. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est pas ça. Il est venu prendre de ses mains le pouvoir pour pardonner le péché. Il est venu prendre de ses mains l'autorité, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pour ça qu'il a été cloué, qu'il a été crucifié, parce qu'on refusait que de ses mains il puisse prendre ce qui en fait nous séparait de Dieu. Le Seigneur avait le pouvoir sur tout le reste. Sur son œuvre à lui, il avait le pouvoir depuis toujours. Il est le Créateur. Il dit à la lumière, tu sois, tu es, tu t'éclaires, comme vous voulez, comme nous quand on appuie sur le bouton, tac, et la lumière fut. Il a le pouvoir sur la tempête. Il parle et la tempête se calme. Je sais qu'ici, il y a des pêcheurs, au sens des poissons. Il a le pouvoir sur les poissons. Plusieurs fois, première pêche miraculeuse. Deuxième pêche miraculeuse, vous allez jeter le filet du côté droit. Et cette fois-ci, il y a. Et la troisième pêche miraculeuse, celle-là, elle est, pour moi, elle est grandiose. On doit payer l'impôt pour rentrer dans le village. Il dit à Pierre, écoute, tu vas à la mer, tu jettes l'hameçon. Le premier poisson que tu prends, il aura dans sa bouche la pièce qui correspond à l'impôt pour tous les deux. Je vous lance un défi, je ne suis pas pêcheur. D'arriver à la même chose. Il a le pouvoir sur tout. Mais maintenant, il faut venir prendre le pouvoir sur le péché pour le pardonner, l'effacer et sauver le pécheur. Il faut prendre le pouvoir sur la mort, la vaincre. Ô mort, où est ta victoire ? Il faut prendre le pouvoir sur ce qui nous fait souffrir par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et quand tout a été accompli, alors il le dira. Et il dira, un homme de haute naissance en est allé dans un pays lointain se faire investir de l'autorité royale et revenir. Il ne faut pas oublier la fin. Et revenir ensuite. Et quand il reviendra, il va prendre l'Église. Pas les murs, parce que les murs que nous sommes capables de faire ne sont pas à la hauteur de ce que lui, il est capable de faire. Dans le ciel, il n'y aura pas de fuite. On n'a jamais réussi à les régler. C'est pas ma faute, c'est pas moi. Je suis pas... On s'est cassé la tête, on n'a rien compris, on ne comprend toujours rien. Mais dans le ciel, il n'y aura pas tout ça. Donc, que personne ne se trompe, l'Église, ce n'est pas les murs. L'Église, c'est nous. C'est nous. Je bâtirai mon assemblée, mon Église. Et rien ne prévaudra point contre elle. Dieu a tout donné. Alors certains le prennent et puis ils s'en vont. C'est à moi, c'est à moi. Et puis il y en a d'autres qui le prennent au bout d'un moment et disent, mais moi je veux le vivre avec toi. Et puis, je veux bénir les autres avec ce que tu m'as donné. C'est pas ce que vous et moi on a fait en premier, soyons honnêtes. Hein. Il a fallu que le Seigneur vienne toucher nos cœurs pour qu'on comprenne que qu'as-tu que tu l'aies reçu. Certains, ils sont doués au niveau musical. Eh bien, mettez ce don au service de l'œuvre de Dieu. Ne jouez pas que pour vous dans votre chambre la nuit avec des écouteurs. Parce que sinon, vous allez laisser la place à ceux qui vaudraient mieux qu'ils ne jouent pas. Voilà, je dis en plaisantant, mais parfois certaines personnes se disent, mais quel talent j'ai, moi ? Ben, je ne sais pas. Cherchez ce que Dieu vous a donné, pourquoi il vous a donné. Et en général, c'est pas que pour vous. Si vous êtes super doué en cuisine, c'est pas que pour vous. C'est pour régaler toute la famille. C'est vrai partout. Il faut construire, il faut reconstruire, et puis quand c'est abîmé, ben il faut restaurer. Parce que tout est là. Tout est par terre. Je vais prendre l'exemple de la construction et puis je vais bientôt terminer. Imaginez que tous ces matériaux, on nous les ait amenés là. Eh bien, on ne serait pas assis ce soir-là. Hein. Oui, mais maintenant, il faut que... Eh bien, oui, vous avez tout. Maintenant, vous construisez. Au moment où il fallait prendre une décision importante, toute l'Église priait. Moi aussi. Et à un moment donné, Dieu m'a donné un passage dans le livre du prophète Habacuc. Mais Dieu l'a donné le même passage à une autre chrétienne de l'Église, se reconnaîtra. Et elle m'a appelé. Et ça aussi, quand vous venez de dire quelque chose qui vous fait un effet particulier, et que vous avez une sœur qui est au courant de rien, qui vous appelle, qui dit, écoutez, pasteur, Dieu m'a parlé au travers de ce passage, il faut que je vous le lise. Je vous avoue que là, il n'y a que les sourds qui n'entendent pas. Parce que vous dites, ah ben oui. Et quand vous le dites à l'Église, ce passage du prophète Habacuc, alors si vous voulez savoir de quel passage il s'agit, vous revenez demain parce que je donnerai la référence à votre pasteur. Maintenant, c'est à vous, bâtissez, construisez. C'est comme ça que Dieu nous a parlé. Alors on s'y est mis, et par la grâce de Dieu, tout était là. Dieu nous l'a livré petit à petit, pas tout en même temps, heureusement. Mais c'était comme la maison en kit. C'était comme la voiture en kit. Et parfois, nos vies sont en kit. Eh oui, mais Dieu ne se trompe pas. S'il donne tout en kit, il va donner aussi la notice pour construire. On est capable de suivre la notrice pour construire la maison. Mercredi, j'ai changé le vieux compteur électrique de la maison que nous avons, qui a 40 ans, avec le fusible. Mais vous ne faites pas ce que vous voulez. Hein. Parce qu'il faut respecter les normes actuelles. Ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La voiture, c'est pareil. Heureusement que ceux qui la montent, ils la montent bien. Et en plus, on doit la contrôler. Et nos vies, on fait ce qu'on veut. Alors vous comprenez que si avec la maison c'est rigoureux avec les DPE et tout le reste, si pour la voiture c'est encore plus rigoureux avec toutes les normes à respecter, comment pouvons-nous nous permettre de mener nos vies comme bon nous semble? Après certains disent « mais je me suis pris le mur ». Ben évidemment, tu as mis l'embrayage à la place du fin dans la voiture, tu vas prendre le mur. Parfois on a construit nos vies dans le désordre. Et puis le Seigneur vient et nous dit « mais moi je bâtis ». Je bâtis l'Église, j'ai bâti l'univers, je bâtis le monde. Et quand le monde s'est perdu, quand le monde s'est détruit, je viens et je reconstruis. Et si ça allait au plus profond de votre être, je suis capable de restaurer votre âme. Permettons à Dieu d'agir dans nos vies. Alors maintenant, il faut assembler pour que ça prenne forme, que ça prenne vie. Et puis, en terminant, celui qui a donné... Et qui nous aime, il nous dit, c'est pour toi. Et celui qui est aimé, pour moi, il ne peut répondre qu'une seule chose. Merci, mais je veux le vivre avec toi. Parce que j'ai trop souvent commis l'erreur de le vivre sans toi. Maintenant, je veux le vivre avec toi. On se recueille et on rend grâce à Dieu. Nous réalisons, Seigneur, au travers de ces moments ce soir que tu es le constructeur de toutes choses. Tu es le maître, tu es à l'origine de tout. Et quand dans nos vies les choses ont été abîmées, détruites, que ce soit la faute des autres ou la nôtre ou les deux, tu viens pour reconstruire. Quelle grâce! Je te prie afin que ce qu'on a pu vivre dans le domaine du bâtiment, tout le monde ce soir présent et ceux qui n'ont pu venir, puissent le vivre dans le domaine de leur propre vie individuelle. Parce que c'est là l'Église. Et c'est celle-là que tu bâtis. Continue de la bâtir, Seigneur. Et ensemble, nous bénissons ton nom. Amen.